Anton Pavlovitch Tchekhov naît en 1860 à Taganrog, au bord de la mer d'Azov, en Russie. Il est le troisième d'une famille de six enfants. Fils d'un commerçant puritain, tyrannique et violent qui se réfugie à Moscou en 1876 pour échapper à la prison pour dette, il entreprend des études de médecine tout en entretenant sa famille grâce à des chroniques littéraires, des récits et des parodies publiées dans divers journaux. Devenu médecin en 1884, il exercera cette profession jusqu'à la fin de sa vie. Tchekhov trouve dans la pratique de son métier l'occasion d'observer divers milieux sociaux ainsi que de multiples comportements humains. Il se fait d'abord connaître en publiant des nouvelles sous pseudonyme dans plusieurs quotidiens. Alors qu'il considère encore son activité littéraire comme de l'écriture alimentaire, il reçoit en 1886 la lettre d'un écrivain célèbre, Dimitri Grigorievitch, une référence pour Tchekhov. Dans cette lettre, Grigorievitch lui témoigne son admiration tout en lui signifiant que ce serait une faute grave de ne pas approfondir une aussi grande qualité d'écriture. Cette lettre agit sur Tchekhov comme la foudre et en réponse, et coup sur coup, il rédige une nouvelle, La Steppe, et une pièce de théâtre, Ivanov, au triomphe mitigé et bruyant. Outre le succès, ces deux ouvrages le font entrer de plein pied au cœur de sa propre écriture. En 1888, l'Académie russe des sciences lui décerne le prix Pushkin. En 1890, il entreprend un voyage épuisant au bagne de Sakhalin, d'où il rapporte deux récits, L'île de Sakhalin et En déportation. Ce voyage sera un tournant dans sa vie et dans son œuvre. Le bagne et sa cruauté, la misère et la pauvreté des condamnés le convainquent d'agir pour le bien. Aussi, à son retour, il financera la construction de plusieurs écoles populaires et fonde des dispensaires. Il soigne ses patients dans le besoin, souvent gratuitement. À partir de 1896, il entame une collaboration fructueuse avec Constantin Stanislavski, directeur du Théâtre d'art de Moscou et pédagogue, auteur d'une méthode de direction d'acteurs éponyme. Seront joués au Théâtre d'art La Mouette, Oncle Vania, Les Trois Sœurs et La Cerisaie. En 1897, son état de santé, fragilisé par son voyage à Sakhalin, se dégrade et le contraint à entrer en clinique à Yalta. Élu à l'Académie des sciences, section Belles-Lettres en 1900, il en démissionne deux ans plus tard pour protester contre l'exclusion politique de Maxime Gorki. En 1901, il épouse Olga Knipper, une actrice du théâtre d'art. Il décède en 1904 à l'âge de 44 ans dans la station thermale de Badenweiler en Allemagne.
La demande en mariage d'Anton Tchekhov. Traduction d'André Markowitz et Françoise Morvan. Plaisanterie en un acte. La demande en mariage a été écrite en octobre 1888, au moment où le succès rencontré par L'Ours, autre pièce en un acte, incitait Tchekhov à céder à son goût pour les plaisanteries en un acte inspirées du vaudeville. Le 23 décembre 1888, il annonce à Souvorine, son éditeur, qu'il pourrait bien gagner sa vie de cette façon-là. « Je crois que je pourrais en écrire une centaine par an », écrit-il. « Les sujets jaillissent de moi comme le pétrole ». La demande en mariage fut représentée pour la première fois en avril 1889 à Saint-Pétersbourg et publiée dans un journal, puis dans un recueil de pièces de Tchekhov et enfin dans ses œuvres, avec quelques modifications. Comme L'Ours, elle devait connaître un succès immédiat et jamais démenti, valant même à son auteur les éloges du tsar Alexandre III qu'il avait vu représenter au Palais d'été. Personnage.
Stepan Stepanovitch Tchoubukov, propriétaire terrien.
Natalia Stepanovna, sa fille, 25 ans.
Ivan Vassilievitch Lomov,
voisin des Tchoubokov, propriétaire terrien, homme robuste et bien en chair, mais hypochondriaque.
L'action se passe dans le salon de la maison de Tchoubokov. Tchoubokov est Lomov, lequel entre en habit et gants blancs. Tchoubokov allant à la rencontre de Lomov.
Ma bichette, qui vois-je ? Ivan Vassilievitch, très très heureux.
Il lui serre la main.
Ça, c'est le cas de le dire pour une surprise, ma petite vieille. Comment va ?
Je vous remercie, et vous, comment daignez-vous vous porter ?
On fait aller, mon ange, de mon âge, avec l'aide du ciel et tout et tout. Asseyez-vous, je vous en prie humblement. Ça, c'est le cas de le dire, ce n'est pas bien d'oublier ses voisins, ma petite vieille. Ma bichette, mais enfin, pourquoi tout ce protocole ? L'habit, les gants et tout. Allez-vous quelque part, mon tout précieux ?
Non, juste chez vous, très honoré Stepan Stepanitch.
Mais pourquoi l'habit alors, ma beauté ? Comme pour une visite de nouvel an.
Eh bien, n'est-ce pas ?
Il prend Tchoubokov par le bras.
Je suis venu vous trouver, très honoré Stepan Stepanitch, pour vous importuner d'une certaine demande. J'ai eu maintes fois l'honneur de m'adresser à vous pour requérir votre aide, et vous, toujours pour ainsi dire. Mais pardonnez-moi, je suis ému, je boirai bien de l'eau, très honoré Stepan Stepanitch.
Il boit de l'eau.
Il vient me demander de l'argent. Compte là-dessus.
De quoi s'agit-il, beau gosse ?
Voyez-vous, Noran Stepanitch, pardon, Stepan Noranitch, c'est-à-dire, je suis affreusement ému. Oh, je suis affreusement ému, comme vous daignez l'observer. Bref, vous êtes le seul à pouvoir me venir en aide, même si, bien sûr, je ne mérite en rien et n'ai aucun droit de compter sur votre aide.
Oh, mais ne faites pas des tartines comme ça, ma petite vieille. Sortez-nous ça d'un coup, alors.
Tout de suite, à la seconde. Le fait est que je suis venu demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna.
Ma cocotte, Ivan Vassilievitch, redites-moi ça encore, j'ai cru mal entendre.
J'ai l'honneur de demander...
Ma bichette, je suis si heureux et tout, voilà, c'est le cas de le dire, et tout le bazar.
Il étreint et l'embrasse.
Je désirais depuis longtemps, ça a toujours été pour moi mon plus cher désir.
Il verse une larme.
Et je vous ai toujours aimé, mon ange, de mon âme, comme mon propre fils. Dieu vous prête à tous deux longue et heureuse vie et tout, je désire si fort. Qu'est-ce que j'ai à rester là, planté comme une vieille souche ? J'en perds la boule, j'en perds littéralement la boule. Ah, de tout mon cœur, j'appelle Natacha et tout bazar.
Très honoré Stepan Stepanitch, qu'en pensez-vous, puis-je espérer son consentement ?
Un homme, c'est le cas de le dire, un si bel homme et crac, elle irait le fur refuser. Folle d'amour, je parie, comme une chatte, et tout, je reviens.
Il sort.
Quel froid. Je tremble de tout mon corps. Comme avant un examen, l'essentiel, c'est d'y aller. Si on réfléchit trop longtemps, si on hésite, si on reste à parler, à attendre l'idéal ou l'amour véritable, à ce train-là, on ne se mariera jamais. Quel froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas vilaine, elle a de l'instruction, que demander de plus ? N'empêche, d'émotion, je commence à en avoir des bourdonnements d'oreilles.
Il boit de l'eau.
Je ne peux pas ne pas me marier. D'abord, j'ai déjà 35 ans, un âge, comme on dit, critique. Ensuite, il me faut une vie tranquille et réglée. J'ai un souffle au cœur, des palpitations permanentes. Je suis impulsif et tout le temps affreusement émotif. En ce moment-là, j'ai les lèvres qui tremblent et la paupière de droite, un petit tic qui me tiraille. Mais le plus affreux du tout chez moi, c'est le sommeil. À peine au lit, à l'instant de m'endormir, d'un coup, dans le flanc gauche, vlan, ça me tire et ça remonte droit dans l'épaule et dans la tête. Je saute du lit comme un fou, je fais deux pas, trois pas, je me recouche et à peine au bord de m'endormir, vlan, dans le côté, c'est reparti comme ça, 20 fois. De suite.
Natalia Stepanovna entre.
Ah mais ça par exemple, vous ? Et papa qui me dit, vas-y, il y a un marchand qui vient chercher sa marchandise. Bonjour Ivan Vassilievitch.
Bonjour, très honorée Natalia Stepanovna.
Excusez, je suis en blouse, en tous les jours. On écosse les pois pour les mettre à sécher. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans venir ? Asseyez-vous.
Il s'asseye.
Mangeriez-vous quelque chose ?
Non merci, j'ai déjà mangé.
Vous pouvez fumer, voilà les allumettes. Un temps magnifique, et hier il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché ? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique, j'ai fauché tout le pré, et maintenant je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon foin ne pourrisse. J'aurais mieux fait d'attendre, mais que se passe-t-il ? On dirait que vous êtes en habit. Voilà du nouveau. Vous allez au bal ou quoi? Remarquez, ça vous met en valeur. Mais vrai, comment se fait-il? À quatre épingles, comme ça.
Voyez-vous, honorée Natalia Stepanovna, le fait est que je me suis décidée à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonnée et même fâchée, mais je... J'ai affreusement froid.
De quoi s'agit-il? Eh bien?
Je m'efforcerai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, honorée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps déjà, depuis l'enfance même, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu Tati et son mari, dont, comme vous daignez le savoir, j'ai reçu les terres en héritage, ont toujours considéré avec un profond respect votre papa et feu votre maman. Les familles Lomov et Tchoubukov ont toujours entretenu les relations les plus amicales et même, c'est le cas de le dire, familiales. De plus, comme vous daignez le savoir, mes terre et les vôtres se touchent de très près. Si vous daignez vous en souvenir, mes petits prés aux bœufs jouxtent votre bois
de boue. Pardon de vous interrompre, vous dites mes petits prés aux bœufs. Mais est-ce qu'ils sont à vous?
Bien sûr.
Ça par exemple, les petits prés aux bœufs, ils sont à nous et pas à vous.
Non. Ils sont à moi, très honorée Natalia Stepanovna.
Première nouvelle. D'où tenez-vous qu'elles sont à vous?
Comment ça, d'où je le tiens? Je pars de ces petits prés aux bœufs qui se glissent en coin entre votre bois de bouleau et le marais brûlé.
Mais oui. Ils sont à nous.
Non. Vous faites erreur, très honorée Natalia Stepanovna. Ils sont à moi.
Reprenez-vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand sont-ils à vous?
Comment, depuis quand? D'aussi loin que je m'en souvienne, ils ont toujours été à nous.
Non, bon, là, permettez.
C'est mis dans les papiers, très honorée Natalia Stepanovna. Les petits prés aux bœufs ont été objet du litige autrefois, c'est vrai, mais n'est-ce pas, à présent, tout le monde le sait qu'ils sont à moi. L'affaire est close, comme vous daignez le voir. La grand-maman de Tati avait concédé, sans bail et à titre gracieux, la jouissance de ses petits prés aux paysans du grand-papa de votre papa, parce qu'il lui faisait des briques. Les paysans du grand-papa de votre papa ont joui à titre gracieux de ses petits prés pendant une quarantaine d'années. Ils ont fini par les considérer, pour ainsi dire, comme étant à eux. Ensuite, quand il y a eu l'abolition...
Mais ce n'est pas du tout comme vous dites. Grand-papa et le papa de grand-papa considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé, donc que les petits prés aux bœufs étaient à nous. Où est le problème? Je ne comprends pas, c'est exaspérant.
Je vous montrerai les papiers, Natalia Stepanovna.
Non, mais vous plaisantez tout simplement ou vous vous moquez de moi. Ça, c'est pour une surprise. Nous possédons une terre depuis bientôt 300 ans et, de but en blanc, on vient nous dire que cette terre n'est pas à nous. Ivan Vassilievitch, pardonnez-moi, mais je n'en crois pas mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne à ces petits prés. Ils ne font que 5 hectares et ils valent à peine 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Dites ce que vous voulez, mais l'injustice, moi, je ne supporte pas.
Écoutez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-papa de votre papa, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, fabriquaient pour la grand-maman de Tati des briques. La grand-maman de Tati, voulant leur faire plaisir...
Le grand-papa, la grand-maman, la Tati, je n'y comprends rien, rien du tout. Les petits prés sont à nous. Point.
Ils sont à moi.
À nous. Vous aurez beau rester, me le démontrer 2 jours de suite, vous aurez beau enfiler 15 habits, ils sont à nous, à nous, à nous. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je n'ai pas envie de perdre ce qui est à moi, que ça vous plaise ou non.
Moi, Natalia Stepanovna, les petits prés, j'en ai pas besoin, mais c'est le principe. Si vous voulez, je vous en prie, je vous les offre.
C'est moi qui peux vous les offrir. Ils sont à moi. Tout cela est pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à présent, nous vous considérions comme un bon voisin, un ami. L'an passé, nous vous avons prêté notre batteuse, en sorte que nous autres, nous avons dû finir de battre en novembre. Et vous, vous nous traitez comme des romanichels. Vous m'offrez mes propres terres. Pardonnez-moi, ça ne se fait pas entre voisins. À mon avis, ça frôle la pudence. Autant dire que bon...
Après vous, alors je suis un usurpateur? Madame, Jamais je ne me suis emparée des terres d'autrui. Je ne permettrai à personne de m'en accuser.
Il se dirige précipitamment vers la carafe et boit de l'eau.
Les petits préaubes sont à moi.
C'est faux. À nous.
À moi.
C'est faux. Je vais vous le prouver. Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs dans ces petits prés.
Pardon?
Aujourd'hui même, je vais envoyer mes faucheurs.
Et voir un coup de pied.
Essayez voir.
Lomof se plaquant une main sur le cœur.
Les petits préaubes sont à moi. Vous comprenez? À moi.
Ne criez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez crier et hurler de rage tant que vous voulez chez vous. Mais ici, je vous demande de respecter les limites.
Madame, c'est terrible, ces effroyables palpitations et ces veines qui me battent dans les tempes. Je vous aurais parlé d'un autre mot. Les petits préaubes sont à moi!
À nous!
À moi!
À nous!
À moi!
Tchoboukov entre.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces cris?
Papa, explique s'il te plaît à ce monsieur à qui appartiennent les petits prés aux bœufs, à nous ou à lui?
Ma poulette, les petits prés sont à nous.
Mais voyons, Stepan Stepanitch, comment ça, ils sont à vous? Vous au moins soyez raisonnable. La grand-maman de Tati avait cédé les petits prés à titre temporaire et gracieux aux paysans de votre grand-papa. Les paysans ont joui de cette terre pendant 40 ans et se sont habitués à la considérer comme étant à eux. Puis, quand il y a eu l'abolition...
Permettez, mon tout précieux, vous oubliez que justement les paysans ne payaient pas votre grand-mère et tout le bazar parce que les petits prés étaient alors objet de litige et tout et tout. Mais le premier qui est venu, c'est aujourd'hui, oui, c'est le cas de le dire, qu'ils sont à nous. Vous n'avez donc pas vu le cadastre?
Et moi, je vous prouverai qu'ils sont à moi.
Vous le prouverez pas, mon cher étendre.
Si, je vous le prouverai.
Ma petite vieille, pourquoi crier comme ça? Pas par le cri, non, c'est le cas de le dire. Vous ne prouverez rien du tout. Je ne demande rien de ce qui est à vous, mais je n'ai pas l'intention de perdre ce qui est à moi. En quel honneur? Et tant qu'à y être, ma mignonne, si vous avez l'intention de nous disputer les petits prés et ainsi de suite, tant qu'à y faire, j'aimerais les offrir aux paysans. Plutôt qu'à vous. Voilà.
Je ne comprends pas. Quel droit avez-vous d'offrir le bien d'autrui?
Permettez-moi de savoir si j'en ai le droit, oui ou non. Ça, j'ai le droit de le dire, jeune homme. Et je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton et tout et tout. Moi, jeune homme, j'ai deux fois votre âge. Et je vous demande de me parler sans faire d'agitation et tout le bazar.
Non, mais vous me prenez pour un imbécile. Vous vous fichez de moi. Vous dites que mes terres sont à vous et vous voudriez, en plus de ça, que je garde mon sang-froid et que je vous parle humainement. Les bons voisins ne se conduisent pas comme ça. Stepan Stepanitch, vous n'êtes pas un voisin, mais un usurpateur.
Pardon? Vous dites?
Papa, envoie tout de suite les faucheurs aux petits prés.
Vous dites, monsieur?
Les petits prés sont à nous et je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas.
Ça, nous verrons. Je vous le prouverai par voie de justice qu'ils sont à moi.
Par voie de justice? Vous pouvez porter plainte, mon bon monsieur, et tout le bazar. Vous pouvez. Je vous connais, tout ce que vous faites, c'est le cas de le dire, c'est guetter l'occasion de faire des procès et tout. La manie de la chicane. Toute votre lignée a toujours été procédurière. Toute votre lignée.
Je vous demande de ne pas insulter ma lignée. Chez les Lomov, tout le monde a toujours été honnête. Personne ne s'est retrouvé devant les juges pour dilapidation de fonds publics comme votre tonton.
Et chez vous, les Lomov, tout le monde était cinglé.
Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Votre grand-père, il buvait comme un trou. Et la plus jeune de vos tantes, c'est le cas de le dire, Natasia Mikhailovna, elle s'est sauvée à Vannes avec un architecte et tout et tout.
Vous, votre mère, elle était bossue.
Lomov se plaque la main sur le cœur.
Ça tire dans le côté, ça cogne dans la tête, mon Dieu, de l'eau.
Vous, votre père, il jouait aux cartes et c'était un vrai goinf.
Et votre tante, c'était une cocanière de première.
Je ne sens plus ma jambe gauche. Et vous, vous êtes un intrigant. Oh, le cœur. Et ce n'est un secret pour personne que vous, avant les élections, vous... Des étincelles devant les yeux. Où est mon chapeau?
C'est vil, c'est malhonnête, c'est dégoûtant.
Et vous-même, vous, c'est le cas de le dire. Vous êtes un homme pervers, hypocrite et menteur. Et oui.
Le voilà, le chapeau, le cœur. Où aller? Où est la porte? Oh, je meurs, j'ai l'impression, la jambe qui se traîne.
Il se dirige vers la porte.
Et que votre pied ne s'avise plus de franchir mon seuil.
Portez plainte, on verra.
Lomov sort en chancelant.
Au diable!
Si ce n'est pas une fripouille, hein! Allez, après ça, vous fiez au bon voisin!
Ah, la crapule, l'épouvantail à moineaux!
Le monstre! Ça vient accaparer la terre d'autrui, et en plus, ça se permet de grossir!
Et ce grand lustricru, c'est le cas de le dire de tombe, il se permet avec ça de venir faire sa demande et tout et tout! Une demande!
Quelle demande?
Comment? Mais il était venu demander ta main en mariage.
Me demander en mariage ? Moi ? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?
C'est pour ça qu'il était ton ami ! Cette espèce de saucisse, cet avorton !
À moi ? Une demande en mariage ?
Elle tombe dans un fauteuil et gémit.
Ah ! Ramenez-le ! Ramenez-le ! Ah ! Ramenez-le !
Ramène qui ?
Vite, vite, je me sens mal ! Ah ! Ramenez-le ! Ramenez-le !
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Malheureux que je suis, je vais me brûler la cervelle, je vais m'en prendre, je suis martyrisé !
Ramenez-le, je suis morte !
Chut, tout de suite ! Cesse de brailler !
Il sort en courant.
Qu'avons-nous fait ? Ramenez-le ! Ramenez-le !
Tchoboukov entre en courant.
Il arrive, et tout, et que le diable l'embroche ! Ouf ! Parle-lui ! Toi, moi, c'est le cas de le dire, je n'en ai pas l'intention.
Ramenez-le !
Il arrive, on te dit, Seigneur Jésus, quel dur métier d'avoir une fille à marier. Je vais me trancher la gorge, chez le juré. On insulte un homme, on le traîne dans la boue, on le met à la porte et tout ça. C'est toi.
Non, toi.
Et en plus, ça me retombe dessus, c'est le cas de le dire.
Lomov apparaît à la porte.
Bon, parle-lui toi-même.
Tchoboukov sort. Lomov entre épuisé.
Des palpitations effroyables, la jambe qui ne répond plus, des élancements dans le côté.
Pardonnez-moi, nous nous sommes échauffés. Ivan Vassilievitch. Maintenant, ça me revient. Les petits prés aux bœufs, en fait, ils sont à vous.
Le cœur qui bat, c'est effroyable. Ils sont à moi, les petits prés. Le tic qui me tiraille les deux paupières maintenant.
Ils sont à vous, les petits prés. À vous, asseyez-vous.
Il s'asseye.
Nous avions tort.
Moi, c'est le principe. Ce n'est pas aux terres que je tiens au principe.
Parfaitement, au principe. Parlons d'autre chose, si vous le voulez bien.
D'autant que j'ai les preuves. La grand-mère de Tati avait concédé au paysan du grand-père de votre papa que...
Allez, n'en parlons plus. Je ne sais pas par où commencer. Pensez-vous bientôt aller à la chasse ?
La chasse à la bécasse, très honorée Natalia Stepanovna. Je pense y aller après la moisson. Ah, vous avez su ? Figurez-vous ce malheur qui m'arrive. Mon Miro, que vous daignez connaître, s'est mis à boiter.
Quelle pitié ! Comment se fait-il ?
Je ne sais pas, sans doute une luxation ou d'autres chiens qui l'auront mordu. Un chien sans égal. Je ne parle même pas de l'argent. Je l'avais payé 125 roubles à Mironov.
C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch.
Non, à mon avis, c'était donné. Un chien merveilleux.
Papa a payé son pharo 85 roubles. Et notre pharo, il est tellement mieux que votre Miro.
Pharo mieux que Miro. Allons-en. Pharo mieux que Miro.
Bien sûr qu'il est mieux. Pharo, c'est vrai, il est jeune, il n'est pas tout à fait débourré, mais pour la ligne et pour l'allure, il n'y a pas mieux, même chez Voltchanski.
Permettez, Natalia Stepanovna, mais vous oubliez qu'il est bégu, et un chien bégu a toujours du mal à prendre.
Bégu ? Première nouvelle.
Je vous assure, il a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure.
Parce que vous avez mesuré.
J'ai mesuré. Pour la traque, il peut encore aller, bien sûr, mais pour la prise, je doute.
D'abord, notre pharo, c'est un chien de race à poils longs. C'est le fils de Rabot et de Chignol. Et votre bringer moucheté à vous, on ne peut même pas savoir sa race. En plus de ça, il est vieux et moche, comme une vieille rosse. Et puis, il n'est pas...
Il est vieux, mais je ne le donnerai pas contre 5 de vos pharos. Enfin quoi, Miro, c'est un chien alors que pharos, c'est même ridicule d'en discuter. Des chiens comme pharos, n'importe quel rabatteur vous en trouve 13 à la douzaine. 25, c'est le prix plafond.
Vous êtes saisi aujourd'hui, Ivan Vassilievitch, d'une espèce de démon de la contradiction. Tantôt, vous allez inventer que les petits prés sont à vous. Tantôt, c'est Miro qui est mieux que Pharo. Je n'aime pas ça, moi, les gens qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez parfaitement que Pharo est 100 fois mieux que votre... que cet abruti de Miro. Pourquoi dire le contraire ?
Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Mais comprenez-le, votre Pharo, il est bégu.
Ce n'est pas vrai.
Il est bégu !
Ce n'est pas vrai !
Qu'est-ce qui vous prend de crier, madame ?
Et vous, qu'est-ce qui vous prend de raconter
et vous venez le comparer à Pharaon. Pardonnez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion. J'ai des palpitations.
C'est une chose que j'ai remarquée. Les chasseurs qui déblatèrent le plus sont ceux qui s'y entendent le moins.
Madame, je vous le demande, taisez-vous. J'ai le cœur qui éclate. Taisez-vous.
Je ne me tairai pas tant que vous n'aurez pas admis que votre Pharaon est 100 fois mieux que votre Miro.
Il est 100 fois pire. Qu'il crève, votre Pharaon. Les tempes, l'œil, la épaule.
L'imbécile de Miro, lui, ce n'est pas la peine qu'il crève, parce que même sans ça, il est déjà crevé.
Taisez-vous. Je fais un infarctus.
Je ne me tairai pas.
Tchoboukov entre.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Papa, dis-le franchement, en toute conscience, lequel est le mieux comme chien, notre Pharaon ou son Miro?
Stepan Stepanovitch, je vous en supplie, dites-moi juste une chose. Il est bégu, votre Pharaon? Oui ou non? Oui ou non?
Et quand bien même, quelle importance. De toute façon, dans le tout le district, il n'y a pas de meilleur chien et tout et tout.
Mais mon Miro, il est mieux, non, en conscience?
Ne vous mettez pas dans ces états, mon tout précieux. Permettez... Votre Miro, c'est le cas de le dire, il a des qualités positives. Il est de pure race, il a le gérard solide, le rein musclé et tout le bazar. Mais ce chien, si vous voulez le savoir, beau gosse, il a deux défauts majeurs. Il est vieux et il est court de nez.
Excusez-moi, j'ai des palpitations. Prenons les fesses. Si vous daignez vous souvenir, dans l'hépatie à Marouska, mon Miro allait de front avec le grimaud du comte et votre Pharaon, il avait une bonne verste de retard.
Il était en retard parce que le piqueur du comte lui avait donné un coup de fouet.
Et pas volé, tous les chiens sont après le renard. Et voilà le Pharaon qui course un mouton.
Ce n'est pas vrai, monsieur. Ma bichette, j'ai la tête près du bonnet et c'est le cas de le dire. Je vous le demande, laissons là cette discussion. Il l'a frappé parce que tout le monde le sait, il était jaloux. À rien que de le voir, ce chien. Et oui, monsieur, tous, ils nous détestent. Et vous, non plus, monsieur, vous n'êtes pas blanc comme neige. À peine, c'est le cas de le dire, remarquez-vous, qu'un chien est mieux que votre Miro, qu'aussitôt, il faut que vous mettiez, n'est-ce pas? Voilà tout ça et tout le bazar. Je me souviens de tout, moi.
Mais moi aussi, je me souviens.
Moi aussi, je me souviens. Et de quoi vous souvenez-vous?
Des palpitations, la chambre comme morte, je ne peux pas.
Des palpitations, vous parlez d'un chasseur. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est rester bien au chaud dans la cuisine, à chasser la blatte, pas courir le renard. Des palpitations.
C'est vrai, vous parlez d'un chasseur avec vos, c'est le cas de le dire, palpitations. Vous feriez mieux de rester chez vous que de vous trimballer sur une selle. Si c'était pour chasser encore, mais vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour discuter et embêter les chiens des autres et tout et tout. J'ai la tête près du bonnet. Laissons cette conversation. Vous n'êtes absolument pas, c'est le cas de le dire, un chasseur.
Parce que vous, vous êtes un chasseur. Vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour vous faire bien voir du compte et pour intriguer le cœur. Vous êtes un intrigant.
Comment? Moi, un intrigant? Silence!
Intrigant!
Cornion, blanc bec!
Vieux rat, jésuite!
Tais-toi ou je te tire comme une perdrix avec ma vieille pétoire! Béjaune!
Tout le monde le sait que... Oh, le cœur! Feu, votre femme, elle vous battait! La jambe, les tempes, des étincelles, je tombe, je tombe.
Et vous, votre gouvernante, elle vous mène à la baguette!
Ça y est, ça y est, ça y est, le cœur qui a éclaté, l'épaule qui se détache, ouais, mon épaule, je meurs.
Il tombe dans un fauteuil.
Un docteur.
Il s'évanouit.
Gamin, blanc bec, baie jaune. Je me sens mal.
Il boit de l'eau.
Je me sens mal.
Vous parlez d'un chasseur, vous ne savez même pas tenir à cheval. Papa! Qu'est-ce qu'il a? Papa, regarde papa, Ivan Vassilievitch, il est mort.
Je me sens mal, j'étouffe. De l'air.
Il est mort.
Elle secoue Lomov par la manche.
Ivan Vassilitch, qu'avons-nous fait? Il est mort.
Elle tombe dans un fauteuil.
Un docteur, un docteur.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux?
Il est mort, il est mort.
Qui est mort? Mais c'est vrai qu'il est mort. J'ai eu Marie de l'eau, un docteur.
Il porte un verre d'eau à la bouche de Lomov.
Buvez. Non, il boit pas, donc il est mort et tout le bazar. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. Pourquoi je ne me plante pas une balle dans le crâne? Pourquoi je ne me suis pas encore tranché la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Donnez-moi un couteau, donnez-moi un pistolet.
Lomov remue.
Il revient à lui, j'ai l'impression.
Buvez de l'eau, là, comme ça.
Des étincelles de brouillard, où suis-je?
Mariez-vous vite et que le diable vous emporte. Elle consent.
Il unit les mains de l'Homoff et de sa fille.
Elle consent et tout le bazar. Je vous bénis et tout et tout. Seulement, fichez-moi la paix.
Hein, quoi? Qui ça?
Elle consent. Alors, embrassez-vous et allez tous au diable.
Il est vivant, oui, je consens.
Embrassez-vous.
Hein, qui ça?
Il échange un baiser avec Natalia Stepanovna.
Enchantée, permettez, de quoi s'agit-il? Ah oui, je comprends. Le cœur, les étincelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna.
Il lui baise la main.
Ma jambe comme morte.
Moi aussi, je suis heureuse.
Comme un poids, ouf.
Mais quand même, avouez-le maintenant, au moins Miro, il est moins bien que Faro.
Il est mieux.
Il est moins bien.
Il est mieux.
Il est moins bien.
Allons,
il est
mieux. Ce soir, les gens de la famille qui commencent.
Il est moins
champagne.
Bien. Il est moins bien.
Champagne.
Il est moins bien.
Champagne.
Il est moins bien.
Champagne.